Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, aujourd'hui je vous propose de nous pencher sur l'œuvre de l'un des plus grands génies français, génie à la fois littéraire et scientifique, génie du XVIIe siècle, mais dont la pensée a été très féconde et si féconde qu'elle enrichit encore notre pensée d'aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure avec mon invité que j'ai le plaisir d'accueillir sur Canal Académie, Monsieur Jean Ménard, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et également professeur émérite à la Sorbonne, mais surtout auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Pascal et éditeur de l'édition critique des œuvres complètes de Pascal. Et c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Monsieur Ménard, bonjour.
Eh bien, bonjour chère madame, merci de m'accueillir.
Mais c'est moi qui dois vous remercier de venir nous parler de Pascal. Cette édition critique des œuvres complètes, elle offre 4 tomes et j'ai vu que le premier tome était sorti en 1962. Pourquoi 62?
Oui, mais cette édition est un véritable roman parce que le premier tome est sorti en fait en 64. Il y a eu un petit volume précurseur en 1962 qui était un recueil de textes inédits qui allait entrer dans cette édition. Et pourquoi 1962? Parce que c'était le tricentenaire de la mort de Pascal et qu'il y a eu beaucoup de manifestations importantes à cette occasion. Et un éditeur, donc Desclés de Brouwer, que je dois beaucoup remercier, a voulu que je donne quelque chose chez lui. Et ce que je lui ai proposé était démentiel par rapport à ce qu'il attendait. Je lui ai proposé une édition critique de toutes les œuvres de Pascal, et accompagnée d'ailleurs de toute la documentation relative à Pascal. C'est-à-dire c'est une sorte de somme de tout ce qui concerne Pascal. Et l'ouvrage paru en 1964 présentait cette particularité qu'il ne contient aucune œuvre de Pascal. Et il avait pourtant 1200 pages. C'est-à-dire que je prenais des risques et je faisais prendre des risques à mon éditeur. Et ces risques, je dois dire que le public, la presse, notamment le monde de la recherche, a immédiatement compris l'importance de ce qui se faisait. Et je dois dire que j'en ai été vivement encouragé à continuer dans cette voie.
Alors le dernier tome, c'était 1992. Je me réfère aux tomes qui sont inscrits sur les volumes. Est-ce que ça veut dire que vous avez passé 30 ans de votre vie?
Mais attendez, je dois vous corriger.
Pourquoi?
C'est que ce tome, c'est le tome 4 et il y en aura 7.
Bon.
Donc il y a encore 3 volumes à paraître.
Trois volumes à paraître,
oui. La partie publiée ne contient pas les deux plus grandes œuvres de Pascal, Les Provinciales et Les Pensées.
En effet, je m'en étais aperçu, mais je m'étais dit que c'est parce qu'elles existaient dans d'autres éditions.
Vraiment, vous me faisiez confiance. Non, les éditions que je propose seront très différentes des éditions qui ont cours actuellement.
Alors, justement, cette édition complète des œuvres de Pascal, ou des œuvres complètes plus exactement, ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'il y a eu d'autres éditions précédentes, importantes?
Il y a eu plusieurs éditions très importantes. La première qui puisse prétendre au titre d'œuvre complète, quoiqu'elle ne soit pas complète, et date de 1779, c'est-à-dire 18e siècle. Elle est l'œuvre d'un ami de Condorcet, qui est aussi un de ceux qui se sont beaucoup intéressés à Pascal à cette époque, qui s'appelle l'abbé Bossut. La dernière édition importante, celle qui m'a inspiré dans une certaine mesure, c'est l'édition de Brunschvicg et de ses collaborateurs qui est parue entre 1904 et 1914, et au début du XXe siècle. Mais il y avait possibilité de faire quelque chose d'entièrement neuf au bout d'un siècle. Et c'est la raison, et d'ailleurs, ou même au bout d'un demi-siècle, parce que j'ai commencé à travailler un peu après 1950, vous voyez, un moment où j'étais encore très jeune et où
la confiance... J'ai envie de vous demander, quand ne travaillez-vous pas sur Pascal, alors
Je dois dire
plutôt
que
l'inverse.
Je fais beaucoup d'autres choses.
Justement, d'autres choses.
J'ai horreur d'être considéré comme un spécialiste de Pascal, parce que j'estime que je peux parler de beaucoup d'autres choses.
Oui, je m'en doute. Mais néanmoins, vous dites dans votre introduction que vous avez tenu à travailler, à effectuer cet énorme travail de l'édition critique et complète. Rigoureusement seul.
Exactement. Oui. Alors, il faut peut-être expliquer ce que cela veut dire. D'abord, ça part d'un principe qui est posé par Descartes dans son discours de la méthode. C'est que ce n'est pas la même chose qui se fait lorsqu'on travaille seul, lorsqu'on travaille à plusieurs. Oui. Et il y a des choses qui peuvent se faire, ou bien, du moins bien se faire, que si on est seul. Par exemple, dans un problème édition critique, si j'avais travaillé avec d'autres, c'est-à-dire si j'avais dû élaborer à chaque instant des compromis sur des positions critiques qui répondaient à mon choix, eh bien, il y aurait eu quelque chose de boiteux dans l'édition. Et d'autres, mais ça ne veut pas dire que j'ai travaillé seul, en ce sens que je n'aurais profité que de mon travail. J'ai profité du travail énorme, d'un travail énorme qui se faisait autour de moi, au courant duquel je me trouvais, auquel j'adhérais ou bien auquel je n'adhérais pas, que j'assumais jusqu'à un certain point, mais que je complétais sur d'autres, que je renouvelais sur d'autres. Et donc tout cet entourage intellectuel dans lequel j'ai vécu a contribué à ce qu'il y a d'intéressant, d'important et de neuf dans cette édition.
Jean Ménard, nous parlions à l'instant et vous citiez les deux œuvres majeures que nous connaissons, nous qui ne sommes pas très connaisseurs, Les Provinciales et Les Pensées. J'aimerais qu'on parle un instant des Pensées, car j'ai cru comprendre en lisant votre introduction qu'en vérité Pascal n'a jamais écrit un ouvrage qui s'appelle Les Pensées, mais qu'il a laissé des liasses de textes. Et qui les a édités alors sous le titre de Pensées?
Ah, vous savez que déjà pas mal de choses. Seulement il faut mettre de l'ordre dans ce que vous venez de dire.
Voilà, alors mettez un peu d'ordre.
Alors, effectivement, Pascal n'a pas publié lui-même ses pensées, ou du moins l'ouvrage qui a été appelé Pensées.
Oui.
Cet ouvrage a été publié 8 ans après sa mort. C'est une œuvre posthume. Et ceux qui l'ont édité ont pris évidemment beaucoup d'initiatives qui sont tout à fait indépendantes de ce que Pascal était en train de faire. L'ouvrage était inachevé. Il n'est pas simplement posthume, il est inachevé. Et il était dans un état d'inachèvement tel qu'on ne pouvait pas le publier tel quel. Il fallait prendre des positions. Il était notamment divisé en fragments. Et ces fragments, il fallait les ranger dans un certain ordre. Et la façon dont il a été rangé par les éditeurs posthumes, qui étaient les amis et les parents de Pascal, la façon dont il a été rangé a paru résulter du fait qu'il n'y avait pas moyen de mettre ses pensées dans un ordre répondant aux intentions de Pascal. Et c'était les éditeurs eux-mêmes qui avaient classé ces fragments selon la commodité du lecteur. Or, en fait, on s'est aperçu au XXe siècle, donc à une époque relativement récente, il y avait des moyens, et vous parliez de liasses tout à l'heure, il y avait des liasses. Donc les fragments que nous lisions séparément étaient déjà rangés dans des groupes de textes que l'on pouvait retrouver, que l'on pouvait reconstituer. Ce qui ne veut pas dire que ces textes devenaient continus à ce moment-là. Non, ce n'était pas du tout.
Il y avait une logique quand même.
Mais je dirais, il y avait pour chaque texte un contexte. C'est-à-dire que des textes qui étaient mal interprétés pouvaient être désormais bien interprétés parce qu'on pouvait dire l'idée que Pascal développait à ce moment-là était en rapport avec telle autre idée qui était dans la même liasse. Et d'autre part, il y avait des moyens. Alors ces éléments-là sont moins avancés. Il faudra que j'apporte une contribution personnelle. Toute une partie de ces liasses n'était pas simplement constituée une à une, mais il y avait un ordre que Pascal avait conçu entre elles. Et par conséquent, on avait non seulement des contextes, mais on avait aussi l'idée d'un plan, l'idée d'un raisonnement. Et ce raisonnement est d'une complexité et d'une finesse qu'on n'imaginait pas avant de disposer de ces éléments de jugement. Donc les pensées que nous pouvons lire actuellement sont très différentes dans leur présentation de ce qu'on lisait il y a encore un peu plus de 50 ans.
Oui, c'est une vraie révolution, une vraie découverte.
Ah oui.
Alors Jean Ménard, on imagine la difficulté d'établir une édition des œuvres complètes parce qu'il faut présenter un texte correct et un contexte, vous venez de nous l'expliquer. Je voudrais vous poser une question, une de plus naïve, parce que vous allez me la corriger certainement. La copie la plus ancienne est-elle l'original ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment l'original de Pascal qui...
Oh.
Qui peut être retrouvé. Voilà. Ma question est très difficile ou très naïve.
Et je ne sais pas. Je ne me permettrai pas de la qualifier. Je dirais simplement qu'elle appelle une réponse qui n'est pas simple. Et parce que l'un des caractères du texte de Pascal, si l'on considère l'ensemble de ses œuvres, c'est qu'on se trouve avec chaque œuvre particulière dans une situation différente. Et on ne peut pas parler de l'original, par exemple, parce que toutes les œuvres ne sont pas connues en original. Il y a des œuvres dont nous ne connaissons que des copies. Mmh. C'est-à-dire que et quand on a l'original de Pascal, par exemple, pour les pensées, pour une bonne partie des pensées, et encore, ce n'est valable que pour les trois quarts des pensées à peu près, parce qu'il y a un certain nombre des textes conservés par Pascal qu'il avait fait lui-même recopier ou qu'il avait dicté. Donc, c'est pas toujours son écriture. Et quand c'est son écriture, généralement, on a plus d'assurance quand même de la qualité du texte que quand ce n'est pas son écriture. Mais il y a, alors, prenons les provinciales, c'est un texte imprimé. C'est l'exemple classique d'une œuvre littéraire. Elle est imprimée, on vérifie la manière dont l'impression a été faite, on compare les éditions successives, de manière à savoir quel est le texte primitif et le texte suivant. Bon, alors là, on se trouve en face de problèmes particuliers, qui sont d'une complexité incroyable avec les provinciales. Et c'est l'œuvre que je suis en train de préparer pour le moment et qui paraîtra peut-être à la fin de cette année. Mais là, il y aura 2000 pages à peu près. Donc vous voyez que
c'est ça.
Parce que les à côté sont extrêmement importants, extrêmement nombreux. Donc, à côté des œuvres imprimées, il y a aussi les œuvres qui n'ont été conservées que par des copies. Et comme on faisait autrefois, on diffusait les œuvres en faisant des copies. Ou bien que lorsque l'on héritait d'un écrivain dont l'œuvre était particulièrement estimée, mais qui n'avait pas été publiée, on commençait par en prendre une copie. Exactement comme aujourd'hui, on le dactylographie. Oui. Ou bien on le passe à l'ordinateur. On le saisit, comme on dit.
Comme on dit,
le
voilà.
Saisit. Oui. Mais on le saisit plus ou moins bien. Chaque fois qu'on saisit un texte, on fait des fautes.
Voilà, on risque de faire des
fautes.
Je voudrais vous poser une dernière question. Pascal a-t-il encore aujourd'hui quelque chose à dire à notre époque ?
Bien, je crois que justement le problème fondamental que je me pose à propos de Pascal, c'est de savoir comment le prendre en quelque sorte. Que faire de lui ? Que faire de lui ? L'un des traits de notre monde depuis une trentaine d'années, c'est qu'il se sépare à une vitesse de plusieurs années-lumière par an de sa culture, de la culture passée. Dit Pascal, qui vivait il y a plus de 300 ans et qui est pourtant un auteur, était encore presque notre contemporain il y a 50 ans. On pouvait parler de lui comme si c'était de quelqu'un, comme s'il s'agissait de quelqu'un que nous aurions connu. Maintenant, ce n'est plus vrai du tout. Nous sentons que c'est quelqu'un qui s'éloigne de nous. Alors, comment se fait-il qu'il peut rester proche de nous et comment se fait-il que nous ayons intérêt à nous rapprocher de lui ? Bien, là, je vais aller très vite. Je dirais que c'est les très grands esprits, à la catégorie desquels il appartient, ont d'abord quelque chose d'universel et quelque chose d'unique. Universel, c'est-à-dire que nous trouvons les problèmes de tous les temps. Et nous y trouvons, d'autre part, la beauté de tous les temps. Et la qualité littéraire ou humaine que l'on a besoin à tous les temps. Mais ils ont quelque chose d'unique. C'est-à-dire que si nous nous privons de leur apport, de leur témoignage, de leur création, et nous nous privons de quelque chose que nous ne retrouverons nulle part ailleurs. C'est un tout grand écrivain est unique en son genre et tout grand écrivain, s'il disparaît de notre culture, nous prive de quelque chose qui est non pas seulement à lui, mais à nous.
Jean Ménard, merci infiniment. Je précise que les œuvres complètes de Pascal, donc dans l'édition critique que vous avez établie, sont publiées par les éditions Des Clés de Beauvert, ainsi que nous vous l'avez signalé, que vous avez vous-même établi des éditions critiques pour l'abrégé de la vie de Jésus-Christ et l'entretien avec Monsieur de Sacy sur Épictète et Montaigne de Pascal, ainsi qu'une édition critique de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Mais ce ne sont là que quelques-unes de vos œuvres, je suppose. Je voudrais aussi signaler à nos auditeurs et peut-être à vous, si vous, je ne sais pas si vous le savez, qu'il existe un réseau Blaise Pascal, un réseau de gens qui sont des scientifiques et des philosophes, qui se regroupent parce qu'ils sont intéressés par les relations entre la science et la foi, car il ne faudrait pas oublier que Pascal était aussi grandement un scientifique. Cette association a son siège à Gif-sur-Yvette dans l'Essonne. Monsieur Ménard, merci d'être venu partager avec nous l'œuvre immense de Pascal, et j'espère que nous aurons une autre occasion, une autre opportunité d'évoquer avec vous cette grande figure de notre histoire, de notre littérature, de nos sciences, de notre culture, en un mot.